Histoire de la psychanalyse par Jacques Alain Miller. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la langue que parle un petit enfant et qui n'est pas celle de tout le monde?
La langue que nous parlons est très bizarre et elle semble même marquée de loufoquerie quand on la prend sous l'angle de l'étymologie. C'est-à-dire quand on considère d'où viennent les mots dont nous nous servons. Par exemple, le mot « bizarre ». D'où vient-il? Il vient de l'espagnol. Ça s'est passé à l'âge classique. Henri IV, Louis XIII, Louis XIV. À l'époque, les Français étaient très jaloux des Espagnols, qui étaient la grande puissance, un peu comme les Américains aujourd'hui. Et l'Espagne apparaissait alors spécialement comme bizarre. D'ailleurs, vous vous souvenez peut-être que Pascal, pour montrer les variations de la vérité d'un pays à l'autre, prend l'exemple de l'Espagne et que la vérité s'inverse en passant les Pyrénées. Toujours est-il que bizarre vient de l'espagnol où il veut dire vaillant, courageux. Et comment bizarre est-il arrivé en espagnol? On ne sait pas très bien si c'est à partir du basque ou de l'arabe, quand on consulte les dictionnaires français. Ça pourrait venir du basque « bizarra » qui voudrait dire « barbe ». Et ça a même été décomposé, et Littré dit que c'est d'un côté « bise » et de l'autre côté « arra », et que ça voudrait dire qu'il soit un homme. Hein, si c'est pas beau, ça. Mais ça pourrait venir de l'arabe « bacharet », qui veut dire « beauté et élégance », d'où « vaillant et chevaleresque », bien sûr, donc « colérique, emporté, extravagant ». Et nous y sommes. Tout se tient. Tout fait sens. Mais justement, n'importe quel sens. Les étymologies sont toujours extraordinairement convaincantes. Et toutes les origines font aussi bien l'affaire. Enfin, il y a encore plus drôle. Une fois qu'on a consulté les dictionnaires français sur bizarre, allez voir le dictionnaire espagnol. Le dictionnaire espagnol de l'usage courant, comme on parle aujourd'hui l'espagnol en Espagne. Alors là, c'est vraiment désopilant. Le mot « bizarro » existe toujours, il est toujours en usage. Mais le sens de vaillant est tombé en désuétude. Le mot bizarro ne s'emploie plus maintenant que pour qualifier les militaires et dans un sens humoristique. Mais attention, c'est pas fini. Le mot reste dans l'usage espagnol avec le sens d'extravagant et de surprenant, c'est-à-dire, dit le dictionnaire, avec le sens qu'il a en français. Autrement dit, vous voyez le circuit du mot. Bizarro nous est venu de l'espagnol avec le sens de vaillant, et nous le leur avons rendu en quelque sorte avec le sens français d'extravagant et d'irrégulier. Pauvre bizarre. Je ne sais plus s'il est français ou espagnol. Eh bien, ce circuit loufoque du mot, on le trouve à toutes les pages du dictionnaire. Et le dictionnaire a beau être fait pour donner la norme de la langue, un dictionnaire, c'est toujours un livre singulièrement bizarre. Quand est-ce qu'on consulte le dictionnaire de langue ? On le consulte, vous le consultez quand votre langue devient pour vous-même un petit peu du chinois. Quand ça se produit, il y a deux solutions. Hein. Ou bien vous allez au dictionnaire et vous apprenez par le dictionnaire ce que ça veut dire pour les autres, ou bien vous allez chez le psychanalyste. Et là, vous apprenez, vous avez une chance d'apprendre ce que ça veut dire pour vous-même. Ce qui n'est pas la même chose. La réplique célèbre, bizarre, vous avez dit bizarre, ça résume toute l'étymologie, qui est un tissu de malentendus. Toute la langue est prise ainsi, dans un mouvement de trop, comme on dit en rhétorique, c'est-à-dire tout un mouvement de déplacement. L'étymologie des mots, c'est la trace de la parole comme malentendu, la trace que le malentendu laisse dans la langue. Et de proche en proche, quand on suit les étymologies, c'est toute l'histoire qui défile. Tous les peuples, toutes les langues qui sont convoquées à un moment ou un autre pour rendre compte de l'origine de tel ou tel mot. Et finalement, de proche en proche, c'est tout le savoir. Alors la langue, bien sûr, comporte des régularités, mais elle est tissée d'irrégularités profondément fantaisistes, extravagantes, hurluberlues. Alors aujourd'hui, on fait du langage un organe, mais le langage n'a rien de naturel. Le langage est de part en part historique, et c'est encore... il est si peu naturel qu'il vaut encore mieux penser qu'il est surnaturel. Comme le dit la parole... Au commencement était le Verbe. Ou alors on fait du langage le résultat d'un apprentissage. En effet, il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage quand on vous apprend à parler comme tout le monde. Pour autant que cela ait un sens. Mais si on a besoin de vous apprendre à parler comme tout le monde, c'est justement que votre premier mouvement, vraiment les premiers mouvements quand vous êtes tout petit, ce n'est pas du tout de parler la langue de tout le monde, c'est de vous bricoler une langue à vous à partir de celle des autres. Il suffit de suivre le développement du petit enfant pour s'apercevoir qu'il se forge sa langue à lui, sa langue spéciale, comme on dit, et que la langue bonne fille se prête à tous les malentendus. Et ce sont justement ces malentendus qui font des effets de sens. Jadis, j'ai observé ma petite fille, la fille de ma fille, quand elle avait 1 an et demi. Maintenant, elle en aura bientôt 10, et elle a joué le mois dernier la cantatrice chauve. Oui, c'est comme ça. Eh bien, Sylvia, à 1 an et demi, avait un vocabulaire que j'ai relevé d'une centaine de mots. À vrai dire, il y en a peut-être plus, mais je ne vivais pas toujours avec elle, surtout pendant les vacances que je pouvais les noter. Une centaine de mots monosyllabiques et bisyllabiques qui était en quelque sorte forgé par tronquaison, on appelle ça, à partir des vocables de la langue normale. C'est-à-dire qu'elle se bricolait la langue pour elle en fonction de ses intérêts. Par exemple, elle avait le mot « bas » prononcé en levant les bras. Et en levant les bras, ça signifiait qu'elle voulait être prise dans les bras de l'autre. C'était pour elle un intérêt fondamental. Le mot « tête » ne signifiait pas la tête, mais la tétine, qui remplaçait, comme il est d'usage, comme il est habituel, la satisfaction de la nourriture à certains moments par une satisfaction de semblant. Et elle avait forgé elle-même son nom propre. Elle a oublié tout ça. Elle n'avait pas l'air de vouloir du nom qui lui avait été donné. Elle s'était forgé son nom propre toute seule et précisément à partir de l'expression « toute seule ». On peut supposer qu'on avait dû lui dire « comme tu fais bien ça toute seule ». En tout cas, d'après son père et sa mère, elle avait modifié « toute seule » en « tâteau ». Et elle se désignait comme « tâteau », nom qu'elle prononçait en général avec un air de triomphe. Et bien, même quand elle a découvert l'usage du mot « moi », elle se désignait par le nom de Tato, pas du tout par celui qui lui avait été donné par ses géniteurs. Et finalement, elle a découvert avec une intense jubilation, je m'en souviens, les trisyllabiques, les mots à trois syllabes. Et ce qui était spécialement frappant, c'est que ça ne concernait pas ses intérêts immédiats. Je me souviens du premier mot à trois syllabes que je lui ai entendu dire avec jubilation, c'était « dinosaure ». Et on avait le sentiment qu'elle savait que c'était un trisyllabique, c'est-à-dire que c'était plus long que ce qu'elle disait d'habitude. Et le deuxième, c'était, si je me souviens bien, minuscule. Et enfin, elle savait que c'était un tour de force de prononcer ça. Et donc, il s'attachait là une jouissance spéciale qui n'était pas du tout celle que peut donner la tétine à être sucée ou les bras quand ils vous prennent, vous soulèvent. Alors, on nous explique ici et là que les neurosciences vont périmer la psychanalyse. Eh bien, au contraire, à force de crédit, de millions de dollars et d'euros maintenant, puisqu'on s'y met aussi, on commence à vérifier des choses élémentaires. Par exemple, après des recherches financées pendant des années, une conclusion s'est imposée, qui est la suivante. Pour rendre l'enfant intelligent, words are the way. Les mots, c'est la façon de faire. On a vérifié l'impact étonnant des mots sur le développement du cerveau. Et on a vérifié que ces mots doivent venir, comme on s'exprimait, doivent venir d'un être humain attentif et engage, qui met du sien. et que le développement même des réseaux des neurones dépend de la parole adressée à l'enfant par un être humain attentif. C'est ça qui donne forme au mind, à l'esprit. Voilà, ben ça vaut des millions de dollars. On peut dire au moins sur ce point que les neurosciences vérifient l'accent mis sur la fonction de la parole et le champ du langage spécialement dans la psychanalyse par Lacan. Ce que Jean-Pierre Changeux appelle l'homme neuronal, je dois dire que c'est moi qui ai inventé ce nom-là à l'occasion d'un entretien que j'ai eu jadis avec Jean-Pierre Changeux. L'homme neuronal a besoin d'un bain de langage pour devenir l'homme neuronal. Est-ce que c'est qu'un apprentissage qu'on observe chez la petite fille? Est-ce un apprentissage que cette activité primordiale? Mais non, c'est un jeu, c'est jouissif, et c'est là qu'on saisit la valeur de ce mot d'esprit de Lacan, quand il disait que la jouissance est avant tout le jouissance, le sens joui. Ce sens joui est patent dans le jeu de langage chez l'enfant, et le sens joui justement. Ça n'a rien à voir avec le bon sens, c'est même le contraire. Le sens joui, c'est le sens bizarre, c'est dinosaure qui ne sert à rien, sinon à montrer qu'on sait le prononcer.
Histoire de la psychanalyse par Jacques-Alain Miller, réalisation Christine Berlamont.